Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous venons de commencer le chapitre 19 de Saint-Luc, expliquant la première partie, donc versets 1 à 10 de ce chapitre 19. Sur le polycopier qui contient les commentaires du Père de l'Église sur ce chapitre 19, à la page 18, donc c'est le polycopier qui suit, qui explique les chapitres 16 à 20. Nous en sommes en bas de la page, parce que j'ai déjà commencé ce chapitre. Je vous rappelle que c'est l'histoire de Zachée. Donc Zachée, c'était ce petit homme de l'évangile qui ne pouvait voir notre Seigneur Jésus-Christ dans la foule parce qu'il était petit de taille. Donc il monte sur un sycomore pour voir notre Seigneur, parce qu'il savait que notre Seigneur devait passer par là. Et arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'ayant vu, il lui dit: Zachée, hâtez-vous de descendre car aujourd'hui il faut que je demeure dans votre maison. Et Zachée se hâta de descendre et reçut avec joie. Donc c'est la conversion de Zachée qui est expliquée ici. Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: « Seigneur, voici que je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai fait quelque tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit: « Aujourd'hui, le salut a été accordé à cette maison, parce que celui-ci était aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. » J'avais expliqué la dernière fois que Zachée était l'époux de Sainte Véronique, Sainte Bérénice, qui est la femme qui a reçu miraculeusement l'image de la face de notre Seigneur Jésus-Christ sur le voile qu'elle avait utilisé pour essuyer la sueur, les crachats et le sang qui collait sur son visage. Avec Zachée, donc, elle est partie sur ordre de Saint-Pierre, envoyée par Saint-Pierre pour évangéliser avec son mari, donc tous les deux, Zachée et Saint-Zachée et Sainte-Véronique, Sainte-Bérénice, c'est la même personne, sont allés en France et ont missionné dans le Quercy d'abord, puis ensuite jusque en Gascogne. Sainte Véronique est morte et est enterrée. Ses ossements, une partie de ses reliques sont à Souillac-sur-Mer, au nord de Bordeaux. Quant à Zachée, il est resté Rocamadour. Je vous ai expliqué la dernière fois que Rocamadour, c'était le rocher de l'homme qui aimait Dieu, Rocamadéo. Si vous allez, pour ceux qui connaissent Rocamadour, un lieu merveilleux, un des plus beaux villages de France, en haut du grand escalier, juste sous l'épée de Durandal, l'épée de Roland, qui était miraculeusement sauvé par les anges et qui s'est fiché juste au-dessus au niveau de la troisième église de Rocamadour, donc à côté sur le parvis de cette troisième église, l'église la plus haute, eh bien, il y a le sarcophage qui a contenu le corps de Zachée, de Saint Zachée. Ce corps, malheureusement, a été détruit. Je ne me rappelle plus si c'est par les protestants ou par les révolutionnaires de la République. Alors, voyons un petit peu ce que disent les pères sur ces passages. La foule dit Saint Cyril, donc on est en bas, quatre paragraphes avant la fin, le bas de la page 18 sur le polycopier. La foule dit Saint Cyril est une confusion de la multitude et nous devons grimper plus haut et plus auquel si nous voulons voir le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Quand on est dans la foule, on est dans le bruit, on est dans la mondanité, et on ne peut pas voir notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il faut se détacher des choses de ce monde, monter au-dessus de la foule, monter sur les épaules de la foule littéralement, pour que nous puissions quitter les attractions des choses terrestres, les trois concupiscences de la chair, des yeux, l'orgueil, afin de pouvoir voir notre Seigneur. Si je ne monte pas dans l'arbre qui est au-dessus de la foule, eh bien je ne peux pas voir notre Seigneur. C'est pour cela que Zachée a dû monter d'abord dans le sycomore, pour pouvoir voir notre Seigneur. Ce sycomore est un arbre qui ressemble au mûrier par son feuillage, mais qui le dépasse par sa hauteur. Les latins l'appellent arbre noble ou figuier fou. Pourquoi ? Parce que la croix du Seigneur soutient les croyants comme le figuier les figues, et les incroyants se moquent de lui comme étant une folie. C'est une allégorie. Alors, les pères expliquent que Zachée grimpa au sommet de cet arbre afin de pouvoir ressusciter ensemble avec le Christ, car quiconque est humble et conscient de sa propre faiblesse va pleurer et ne jamais se glorifier, sauf dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, monter sur le figuier pour quitter les bruits de ce monde représente celui qui monte sur la croix. Il faut monter sur la croix pour atteindre notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai expliqué un peu de temps dans un sermon que pour atteindre le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir pénétrer dans ce Sacré-Cœur qui est ouvert sur la croix, il faut monter sur la croix. Celui qui refuse de monter sur la croix, eh bien, il ne peut pas atteindre le Sacré-Cœur. Donc il faut d'abord utiliser la Très Sainte Vierge Marie qui nous amène au pied de la croix, ensuite escalader la croix pour atteindre le Sacré-Cœur. Donc ici, d'après certains pères, cet arbre sur lequel est monté Saint Zachée, le sycomore, représente la croix de notre Seigneur qui nous permet de nous rapprocher de notre Seigneur. Donc de le voir, tout simplement, alors que dans le monde, on ne peut pas le voir. Le Seigneur voit Zachée sur l'arbre, car l'excellence de sa foi brille déjà parmi les fruits de ses bonnes œuvres. C'est en haut de la page 19, sur le polycopier, la noblesse de cet arbre. Zachée se tient au-dessus de l'arbre, comme quelqu'un qui est déjà au-dessus de la loi. En montant sur la croix, on voit les choses avec une vision tout à fait différente. C'est très important pour nous. On a toujours beaucoup de mal à juger les choses parce qu'on voudrait juger les choses avec un regard purement humain. Le bon Dieu nous demande, du haut de sa croix, à monter près de lui pour pouvoir juger les choses avec un regard divin. Exactement comme vous êtes monté sur une montagne, quand vous êtes monté sur le sommet d'une montagne, la vue se dégage et on voit beaucoup plus de choses qu'on ne voit pas quand on est dans la plaine. Mais c'est la même chose. Lorsque je monte sur la croix, je quitte les choses de ce monde, je peux voir, à ce moment, comprendre certaines circonstances de ma vie que je suis absolument incapable de comprendre si je reste au pied collé à cette vie terrestre. Il faut que je monte sur la croix pour voir les choses avec une vision surnaturelle comme le bon Dieu les voit. C'est ce qu'il faudra arriver à faire. Si nous arrivions à voir notre âme telle que le bon Dieu la voit, je suis sûr qu'on changerait beaucoup de choses immédiatement parce qu'on verrait immédiatement les imperfections de notre âme et la laideur de notre âme dans certaines choses. Bon, il faut pouvoir arriver à voir les choses, comprendre les choses, connaître les choses telles que le bon Dieu les voit, les comprend, les connaît. Quiconque surpasse les autres en malice, au contraire, sera petit dans sa croissance spirituelle. Il ne pourra pas voir Jésus à cause de la foule. Au contraire, celui qui surpasse les autres en bonté, en noblesse, en état de grâce, sera grand dans sa puissance spirituelle, et lui pourra voir Jésus à cause de la foule. Donc troublé par la passion et par les choses mondaines, il ne voit pas Jésus marchant, travaillant en nous et ne reconnaît pas son œuvre. Et donc il faut arriver à avoir une vision surnaturelle des choses pour comprendre comment le bon Dieu peut travailler sur notre âme par les circonstances dans lesquelles nous débattons à longueur de journée. Et souvent, lorsque nous avons une épreuve, la première réaction, c'est de se dire « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cette épreuve ?» On voit absolument pas, on comprend absolument pas que cette épreuve est parfois permise par Dieu pour nous aider justement à monter au-dessus des choses terrestres et considérer cette épreuve comme un moyen de se rapprocher de Dieu. Autre explication donnée par les pères, il grimpe au sommet du sycomore quand la personne dépasse la douceur des plaisirs signifiés par la figue, et maîtrisant ses plaisirs, il monte de plus en plus et peut voir et être vu par le Christ. Donc il y a deux choses. Quand je monte sur la croix, je peux voir notre Seigneur Jésus-Christ plus facilement et je peux être vu plus facilement par lui. Pour que je puisse Être distingué par Dieu dans la foule, il faut justement que je quitte cette foule. Tant que je reste englué dans les choses de ce monde, le bon Dieu ne peut pas me voir. Il faut que je m'éloigne des choses de ce monde, des trois concupiscences du monde, pour que je puisse être vu par notre Seigneur Jésus-Christ. Autre texte, cette fois-ci de Saint Grégoire le Grand. Le petit Zachée grimpe sur le sycomore, le figuier fou, et voit le Seigneur, car ceux qui humblement choisissent les folies aux yeux du monde sont ceux qui contemplent et s'approchent davantage de la sagesse de Dieu. Donc les choses que le monde aime tant sont les choses qui sont folles aux yeux de Dieu. Et au contraire, les choses qui sont folles aux yeux du monde sont ces choses qui sont grandes aux yeux de Dieu. Donc, en grimpant sur les choses superficielles de ce monde, auxquelles le monde est tellement attaché, je vais pouvoir contempler notre Seigneur. Et donc, m'approcher davantage de la sagesse de Dieu, on retrouve la même chose, c'est-à-dire qu'il faut monter sur l'arbre pour s'approcher de la sagesse de Dieu représentée par cet arbre, c'est-à-dire représentée par la croix. Car y a-t-il chose plus folle pour ce monde de ne pas rechercher ce qui est perdu, de donner nos possessions aux voleurs et ne pas rendre le mal pour le mal? Cependant, par cette sage folie, la sagesse de Dieu est vue, non pas telle qu'elle est, mais par la lumière de la contemplation. Donc, voir les choses, encore toujours la même idée, voir les choses telles que le bon Dieu les voit. Et pour cela, il y a une condition sine qua non, c'est d'accepter la croix. C'est parce que justement je refuse la croix, parce que je refuse de grimper sur la croix, que je ne peux pas comprendre les choses telles que le bon Dieu les comprend, je ne peux pas voir les choses, la signification des six différentes circonstances qui m'arrivent, parce que justement je reste trop collé aux choses de ce monde. Tant que je suis collé aux choses de ce monde, je ne peux pas voir, je ne peux pas comprendre les choses de Dieu. C'est pour ça que les gens qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ sont considérés comme fous par les gens du monde. Et au contraire, pour nous, catholiques, eh bien, les attachements du monde sont folie. Quand on voit à quel point les gens du monde sont attachés par des babioles, on comprend la grandeur de la croix. Autre texte, donc le sens mystique. Zachée se hâta, dit le texte. C'est au verset 6. Zachée se hâta de descendre de l'arbre et le reçut avec joie. Reçut notre Seigneur Jésus-Christ avec joie. Donc voilà le sens mystique. Le sycomore est la croix du Christ et sa doctrine. On retrouve les mêmes textes, les mêmes idées, qui sont pure folie pour les gentils et les hommes de ce monde, mais qui sont au contraire pour Zachée et les fidèles la sagesse et le pouvoir de Dieu. C'est pour cela que le monde ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Et au contraire, les gens qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ sont incapables de trouver un intérêt quelconque aux choses de ce monde. Lorsqu'on devient catholique, un converti, par exemple, doit changer complètement sa conception des choses de ce monde. J'étais très attaché aux choses de ce monde, parce que mon cœur en était plein, et du coup j'ai plus de place pour notre Seigneur Jésus-Christ dans mon âme. Eh bien, par ma conversion, je dois enlever de mon âme toutes ces choses superficielles qui encombraient l'âme et qui faisaient que j'avais plus de place pour le bon Dieu. Et si je vide mon âme des choses matérielles, de l'amour des choses matérielles, du coup j'aurai un peu de place, il y aura un peu plus de place pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse venir prendre la place des choses mondaines. Souvent, on a peur lorsqu'on suit notre Seigneur Jésus-Christ, on le voit très bien dans les convertis. Les gens parfois ont peur, monsieur l'abbé, si je me convertis complètement, mais je vais devenir malheureux. On ne se rend pas compte que la conversion amène une joie précieuse, une joie profonde, parce que justement, on va s'attacher aux choses qui durent au lieu de s'attacher aux choses qui ne durent pas. Je répète cette phrase qui est belle. Le sycomore est donc la croix du Christ et sa doctrine qui sont pure folie pour les gentils et les hommes de ce monde, mais qui sont au contraire pour Zachée et les fidèles, la sagesse et le pouvoir de Dieu. Donc Zachée représente celui qui s'attache à la croix. Zachée représente celui qui met sa fin dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui au contraire qui reste au pied de l'arbre n'est incapable de voir notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il va s'attacher à remplir son âme avec les choses matérielles de ce monde. Autre idée encore, on voit les pères qui ont à peu près les mêmes idées, qu'ils expliquent de façon un peu différente, mais c'est la même idée. La foule, au milieu de la page 19 sur le polycopier, la foule entrave notre lenteur pour voir Dieu. Car le tumulte des soins du monde exerce une telle pression sur l'infirmité de l'esprit humain qu'il ne peut contempler la lumière de la vérité. Quand je veux suivre notre Seigneur Jésus-Christ, il faut que je commence par me détacher des choses de ce monde. La première condition pour connaître Dieu, c'est se détacher des biens de ce monde. Plus je suis attaché au moins aux biens de ce monde, moins il y a de la place dans mon âme pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et au contraire, plus je suis attaché à notre Seigneur Jésus-Christ, moins je vais m'attacher aux choses matérielles de ce monde, parce que ce sont des biens qui passent, alors que les biens de notre Seigneur, les biens divins ne passent pas. Nous sommes sages de monter sur les sycomores si nous retenons avec prévoyance dans nos esprits cette folie qui est reçue de Dieu. La sagesse de Dieu est folie pour le monde, la sagesse des hommes est folie pour Dieu. Nous grimpons le figuier, nous montons au-dessus des attraits et des plaisirs signifiés par ce figuier, nous montons par la pénitence, mais nous descendons par l'humilité. Et donc, ça veut dire qu'on voit très bien qu'il y a certaines conditions pour pouvoir s'approcher de Dieu. Il faut l'humilité qui est le terreau de toutes les vertus. Donc, tant que je n'ai pas d'humilité, eh bien, je ne peux pas m'approcher de Dieu, c'est impossible. On le voit très bien dans un évangile qui m'a beaucoup frappé ces derniers temps. C'était l'évangile, je crois, du quatrième dimanche après la Pentecôte. Nous sommes tout à fait au début de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est Saint Luc chapitre 5. Notre Seigneur n'a pas encore appelé les apôtres, mais il a déjà commencé à prêcher. Il a commencé sa vie publique. Il est pressé par la foule qui voulait entendre la parole de Dieu, qui se tenait sur le bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques arrêtées au bord du lac. Les pêcheurs étaient descendus et lavaient leurs filets. Et montant dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon-Pierre, il le pria de s'éloigner un peu du rivage, puis s'étant assis, il enseignait les foules de dessus la barque. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Pousse au large et jette tes filets pour pêcher. » Simon lui répondit en disant, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur votre parole je jetterai le filet. » Et l'ayant fait, ils prirent une si grande quantité de poissons que leur filet se rompit. C'est là où notre Seigneur va attirer les apôtres à lui. Désormais, ce sont des hommes que vous prendrez. Ayant ramené les barques au rivage, ils quittèrent tout et le suivirent. Qu'est-ce qu'on voit dans ce magnifique texte de Saint Luc? Donc, on voit que les apôtres vont ouvrir leur cœur à la grâce prévenante de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va les appeler à l'apostolat, qui va les appeler à ce qu'ils deviennent des apôtres. Par l'humilité et l'obéissance. Ils ne connaissent pas encore notre Seigneur. Ils l'ont entendu prêcher, c'est tout. Ils n'ont vu aucun de ces miracles. Et bien qu'ils n'aient vu aucun des miracles de notre Seigneur Jésus-Christ, les apôtres vont accepter ce conseil de notre Seigneur qui veut leur dire, poussez au large et jetez vos filets pour pêcher. Et Simon-Pierre fait une petite remarque, mais Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ça, c'est l'humain qui parle. Mais, sur votre parole, je jetterai le filet. Et je ne comprends pas très bien pourquoi vous me demandez de jeter les filets, parce que j'ai rien pris toute la nuit, mais cependant, puisque vous me le demandez, je vais accepter, je mets ma volonté propre dans la poche, le mouchoir par-dessus, et je suis ce que vous voulez. Et à ce moment-là, ils prirent une si grande quantité de poissons que leur filet se rompait. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la première condition pour pouvoir recevoir des grâces du bon Dieu, c'est l'humilité. On voit l'humilité de Saint-Pierre qui aurait pu se rebiffer en disant « Mais vous y connaissez rien à la pêche, moi je dis qu'il n'y a pas de poisson en ce moment, il fait trop chaud, il n'y a pas assez d'eau, ou l'eau trop chaude, l'eau trop froide, je ne sais pas. » Eh bien, Simon-Pierre pratique l'humilité. Sur votre parole, je jetterai le filet. Et cette humilité va entraîner l'obéissance. On voit très bien comment l'humilité et l'obéissance sont les deux grandes vertus qui permettent à l'âme de se rapprocher de Dieu. Je répète cette phrase des pères, nous grimpons le figuier, nous montons au-dessus des attraits et des plaisirs signifiés par ce figuier, nous montons par la pénitence, nous descendons par l'humilité. Sans humilité, rien ne se fait. C'est pour cela que le grand obstacle à la conversion personnelle, c'est l'orgueil. L'orgueil empêche de monter sur la croix. L'orgueil, c'est celui qui dit « Je suis suffisamment grand pour voir notre Seigneur Jésus-Christ par moi-même, je n'ai pas besoin de monter sur cet arbre de la croix. »
L'humble, au contraire, celui qui reconnaît qu'il ne peut pas voir notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est trop petit, que la foule l'empêche de le voir, et qui va accepter de monter sur la croix pour se rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le symbole de la pénitence, disent les pères. Moralement parlant, apprenons donc à désirer le Christ, sa conversation intérieure et sa grâce, car il va bientôt s'offrir à nous, combler nos désirs, d'entrer en conversation intime avec lui, car la sagesse qui est le Christ rencontrera Dieu, celui qui craint et soupire en Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit, cherchez et vous trouverez, demandez et vous recevrez, frappez, on vous ouvrira. Donc il faut soupirer après Dieu, il faut demander avec humilité, rappelez-vous l'aveugle sur le bord du chemin qui entend que notre Seigneur Jésus-Christ arrive, qui veut être guéri, et qui va répéter la même chose, « Seigneur, fils de David, ayez pitié de moi. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. » On veut le faire taire parce que les gens sont troublés par ces cris. Ils veulent le faire taire plusieurs fois. « Taisez-vous, taisez-vous. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. » Et il pratique cette humilité, demandant avec humilité, avec confiance en Dieu, le miracle. Et Jésus va arriver. « Que voulez-vous que je fasse ? » ?»« Seigneur, que je vois. » Et notre Seigneur va guérir. C'est la même chose pour nous. Nous aussi, on est un peu des aveugles tous, moi le premier. On est aveugle, on voit mal notre Seigneur Jésus-Christ, on le distingue mal parce qu'on est trop loin, il y a la foule qui nous gêne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut monter dans l'arbre, s'approcher de la croix, gravir la croix, et à ce moment-là, le Sacré-Cœur va s'ouvrir et nous allons pouvoir rentrer dans ce Sacré-Cœur. Mais pour rentrer dans le Sacré-Cœur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'humilité et l'esprit d'obéissance. L'humilité amène à l'obéissance. Alors qu'au contraire, l'orgueil amène toujours à la désobéissance. Donc, Zachée, pur et justifié par notre Seigneur, représente les fidèles, les gentils fidèles, qui, déprimés par les occupations temporelles, veulent voir le Christ entrer à Jéricho, partageant la foi qu'il amène et mena au monde. Encore une fois, on retrouve la même idée. Pour pouvoir voir le Christ, il faut avoir cette aller vers lui, accepter de quitter les choses de ce monde pour se rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la multitude, les pères réexpliquent ça sous une autre forme. La multitude des habitudes vicieuses qui s'opposaient à Zachée furent par lui rejetées par l'abandon des choses terrestres et l'ascension de l'arbre de la croix. Donc en grimpant l'arbre de la croix, par la force des choses, ipso facto, grimpant sur la croix, je quitte les choses de ce monde. C'est pour ça que la croix et le monde sont totalement opposés. C'est deux étendards de Saint Ignace de Loyola, soit l'étendard de la croix, soit l'étendard de la Révolution française, l'étendard de liberté, d'égalité, fraternité. Contre cet étendard de liberté, d'égalité, fraternité, c'est l'étendard de la croix, la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, tout ça fondé sur l'humilité. Le terreau sur lequel notre Seigneur Jésus-Christ fixe sa croix, c'est toujours le terreau de l'humilité. La multitude des habitudes vicieuses, donc, qui s'opposent à Zachée, furent par lui rejetés par l'abandon des choses terrestres et l'ascension de l'arbre de la croix. Il y a deux choses qui travaillent ensemble. On ne peut pas monter sur la croix sans abandonner les choses terrestres. On ne peut pas abandonner les choses terrestres sans immédiatement trouver le moyen de grimper sur l'arbre de la croix. Alors l'Église, avec raison, donc lit cet évangile de Zachée, donc début du chapitre 19 de Saint-Luc, pour la consécration des Églises. Quand on consacre une Église, l'évêque, quand l'évêque consacre une église, il va lire, comme évangile de la messe de consécration, cet évangile de Saint Zachée. Pourquoi ? Voilà l'explication donnée par les pères de l'église. D'abord, dit-il, parce que le Christ y déclare, aujourd'hui le salut a été accordé à cette maison. C'est le verset 9. Chapitre 19 de Saint-Luc. Jésus dit à Zachée, aujourd'hui le salut a été accordé à cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Et donc cette phrase, le salut a été accordé à cette maison, sont des mots qui s'appliquent parfaitement aux églises qui viennent d'être consacrées. Pourquoi ? Parce que par la consécration, la maison de Dieu, l'église, va être l'instrument du salut de beaucoup. Car leur dédication, le salut de l'Église, consacré par la, pour le salut de beaucoup qui seront justifiés par la prédication, la prière, la contrition, la confession et l'absolution. Aujourd'hui, il faut que je demeure dans votre maison. » Donc cette maison consacrée à notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est l'Église, et ceci notre âme. Par le baptême, notre maison, notre âme, devient consacrée à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'un péché commis par un baptisé est toujours beaucoup plus grave que le même péché commis par quelqu'un qui n'est pas baptisé. Un péché commis dans une église consacrée est bien plus grave que le même péché commis dans un endroit qui n'est pas consacré. Profaner une coupe sans valeur, c'est une chose. Mépriser une coupe consacrée à Dieu, comme par exemple un calice, c'est bien plus grave, parce que justement, ce calice touche le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, comprenons que par le baptême, notre âme devient temple du Saint-Esprit. Si je consacre, j'introduis le péché, je fais introduire le péché dans un temple consacré à Dieu, c'est bien plus grave que d'introduire ce même péché dans une âme qui n'est pas consacrée à Dieu. Donc, l'Église a choisi l'évangile de Zachée pour la consécration des Églises, pour bien marquer que, par la consécration des Églises, cette Église est donnée à notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est consacrée à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, d'ailleurs, c'est un détail liturgique, mais qui a son importance, qu'un évêque ne consacre jamais une Église. La cérémonie de consécration des églises est une des cérémonies les plus belles de la liturgie, qui est très longue, elle dure plusieurs heures. Et l'église interdit à un évêque de consacrer une église, consacrer un bâtiment d'église, tant que ce bâtiment n'a pas été entièrement payé par les constructeurs. Pour être sûr que ce bâtiment ne revienne pas à un usage profane. Si le bâtiment n'a pas été encore payé, les banques pourraient, si les traites ne sont pas versées, ne sont pas payées, la banque pourrait, en cas de refus de paiement, venir récupérer le bâtiment en disant « vous n'avez pas payé, donc je récupère le bâtiment ». C'est pour cela que l'Église ne peut pas faire une cérémonie de consécration par un évêque tant que le bâtiment n'est pas entièrement payé, pour que justement on ne puisse pas consacrer quelque chose qui va perdre sa consécration par un retour au monde. C'est la même chose pour notre âme. Notre âme est consacrée par le baptême. Or, le baptême fait une marque, va marquer notre âme d'un caractère ineffaçable, le caractère d'enfant de Dieu. Et donc, celui qui est baptisé devient temple de Dieu dans son âme. Et malheur à celui qui est devenu temple de Dieu, va ramener son âme au niveau mondain dans lequel cette âme stagnait avant son baptême. De la même manière, disent les pères, le Christ demeure dans l'Église consacrée par le vénérable sacrifice et sacrement de la Sainte Eucharistie. Donc, par sa consécration, l'Église devient l'habitation, le lieu de résidence du Christ. Il n'y a pas que l'Église. L'Église est le temple du Saint-Esprit, mais notre âme aussi. Par le baptême, je deviens temple de notre Seigneur Jésus-Christ. Et malheur à celui qui va profaner ce temple en ramenant ce temple saint consacré par le baptême au niveau des choses mondaines. 23e raison, l'Église matérielle est le type de l'Église spirituelle, c'est-à-dire de l'âme fidèle dans laquelle le Christ souhaite spécialement résider, car il va vivre dans l'âme encore plus que dans la maison de Zachée, selon ces mots de saint Paul, « Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Donc notre Seigneur Jésus-Christ n'a qu'une envie, c'est venir résider dans l'âme, dans ces âmes qu'il a créées. N'oublions pas que toutes les âmes sont créées à l'image de Dieu, parce que toutes les âmes sont des substances spirituelles. Elles ne peuvent pas être détruites matériellement parlant, c'est impossible, vous ne pouvez pas ici-bas détruire une âme, dans le sens que l'âme est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose de naturel pour la nature humaine, puisque toute nature humaine est composée d'un corps et d'une âme, mais c'est quelque chose de spirituel qui ne peut pas être touché. Et bon Dieu ne veut qu'une seule chose, c'est devenir maître de cette âme, venir résider d'une façon toute particulière dans cette âme, il le fait par le baptême. Votre corps, donc, est le temple du Saint-Esprit, puisque ce corps est le temple du Saint-Esprit, puisque notre âme est devenue le temple du Saint-Esprit, malheur à celui qui profane ce temple du Saint-Esprit pour en faire quelque chose de matériel et de vil. Passons à la page 20. C'est la partie donc des versets 11 à 27 du chapitre 19. Je suis pour ces répartitions des versets entre eux, ces coupures faites dans le texte de l'évangile, je suis les coupures faites par saint Thomas d'Aquin dans sa chaîne d'or. Je suis les mêmes. Voilà les versets 11 à 27 du chapitre 19 de Saint-Luc. Comme ils écoutaient ces choses, Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'il pensait que le royaume de Dieu allait être manifesté à l'instant. Jésus leur dit donc, « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour prendre possession d'un royaume et revenir ensuite. » Ayant tapé 10 de ses serviteurs, il leur donna 10 mines et leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient. Ils envoyèrent auprès de lui une ambassade pour dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Il arriva qu'en son retour, après avoir pris possession du royaume, il ordonna qu'on appela le serviteur auquel il avait donné de l'argent pour savoir comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, votre mine a produit 10 mines. » Et il lui dit, « C'est bien, bon serviteur. Parce que vous avez été fidèle en peu de choses, vous aurez puissance sur 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, votre mine a produit 5 mines. » Et il lui dit, « Et vous, soyez établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici votre mine que j'ai tenue enveloppée dans un mouchoir, car je vous ai craint, parce que vous êtes un homme sévère. Vous enlevez ce que vous n'avez pas déposé, vous moissonnez ce que vous n'avez pas semé. » Il lui dit, « Je vous juge par votre propre bouche, méchant serviteur. Vous savez que je suis un homme sévère, enlevant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'avez-vous pas mis mon argent à la banque, afin qu'à mon retour je le retirasse avec les intérêts ?» Puisqu'il dit à ceux qui étaient présents, puis il dit à ceux qui étaient présents, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui en a 10. Et lui dire, Seigneur, il a déjà 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a déjà, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à moi, à mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi. Un texte un peu particulier. Il faut bien analyser les explications données par les pères de l'Église. Donc, cette scène représente tous ceux qui refusent le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. C'est ce que hurle notre gouvernement en France depuis maintenant plus de 200 ans, hein, depuis la révolution de 1789. Le gouvernement actuel ne fait que répéter cette phrase « Nous ne voulons pas que Dieu règne sur nous ». C'est pour cela que la République française se dit laïque. Le laïcisme, c'est quoi ? C'est le refus du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas que Jésus règne dans notre société. Nous ne voulons pas que Jésus règne dans la société dans laquelle nous sommes. N'oubliez pas la doctrine de l'Église, j'en ai déjà parlé, donc j'y reviens pas, que l'Église et l'État doivent être unis comme le corps et l'âme sont unis. Alors, cette parabole, donc, explique que Dieu va donner à chaque individu un certain nombre de talents. Ces mines, ce sont des pièces de monnaie. Donc il y en a qui va donner une dizaine de pièces de pièces d'or, d'autres une 5 et d'autres simplement une seule. Pourquoi ? Parce que les hommes sont différents. Toutes les âmes sont différentes. On voit bien que cette parabole, que notre Seigneur Jésus-Christ connaît les différentes âmes. Il n'a pas créé 2 âmes identiques. Donc nous ne sommes pas égaux. Nous sommes égaux devant Dieu, dans le sens que nous sommes tous créés par Dieu, bien sûr. Mais chaque âme est différente devant Dieu. L'égalité n'existe pas, et on le voit très bien dans cette parabole qui est très importante pour faire comprendre ces choses-là, parce que cette fausse idée d'égalité a fait un dégât énorme dans les âmes. C'est pour cela que tant d'âmes se damnent, parce qu'elles se considèrent comme égales entre elles, et puis évidemment égales à Dieu. Non, Dieu est au-dessus parce qu'il est créateur et rédempteur. N'oubliez pas qu'il est roi parce qu'il est créateur, par droit de nature, et qu'il est roi aussi parce qu'il est rédempteur. Excuse-moi, je reprends. Il est roi parce qu'il est créateur avec un droit de nature, mais il est aussi roi parce qu'il est rédempteur. Il a payé notre rachat et droit donc et roi donc par droit de conquête, nous dit notre Seigneur. C'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Alors, j'ai reçu un certain nombre de mines, j'ai reçu un certain nombre de talents, et malheur à celui qui, justement, ne considère pas les talents qu'il a reçus. C'est pas parce que le voisin a reçu un seul talent que moi qui en ai reçu beaucoup plus, je dois me contenter de faire les petites choses que fait mon voisin qui lui n'a reçu qu'un seul talent. Moi, si j'en ai reçu 10, le bon Dieu va me demander 10 fois plus qu'il ne demande au voisin parce que le voisin n'a reçu qu'un seul talent, que moi j'en ai reçu 10. Alors voyons un petit peu ce que disent les pères, donc en bas de la page 20. Il s'en alla dans un pays lointain, dont il était séparé, non pas tant par la distance physique que par sa condition morale. Un pays lointain, dans certains cas, représente aussi l'éloignement de Dieu. Rappelez-vous l'enfant prodigue qui quitte la maison paternelle et qui s'en va dans un pays lointain et qui va perdre l'état de grâce. Dieu est proche de chacun d'entre nous quand nos bonnes œuvres nous lient à lui, mais il est loin de nous quand nous nous séparons de lui en nous accrochant à la destruction. Il vient dans ce pays terrestre, loin de Dieu le Père, pour recevoir le royaume des gentils. Donc ce roi qui arrive, qui veut venir prendre possession de notre âme, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, envoyé par Dieu le Père, qui veut prendre possession des âmes de tous les fidèles. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi de sa création, mais il va nous demander de faire fructifier ce qu'il a placé dans notre âme. Et comme ce qui a été placé dans nos âmes est différent pour chaque personne, notre Seigneur Jésus-Christ va donc demander des choses différentes pour chaque personne. Attention. Alors, si je refuse d'utiliser les talents que le bon Dieu m'a donnés, eh bien, je ne peux pas sauver mon âme. C'est absolument impossible. C'est pour cela que celui qui a refusé de faire fructifier la mine qu'il avait reçue, eh bien, va être jeté dans le lieu, dans un texte parallèle, il dit, jeté dans le lieu des pleurs et des grincements de dents. Ôtez-lui la mine, donnez-la à celui qui en a déjà 10. Voilà. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi. Et notre Seigneur Jésus-Christ est roi, attention. Il est roi de mon intelligence pour bien me montrer que je ne peux pas faire ce que je veux avec mon intelligence. Il est roi de ma volonté, je n'ai pas le droit de faire ce que je veux avec ma volonté. Il est roi de mon cœur parce qu'il est roi de mes passions. Donc le cœur doit contrôler les passions, la volonté doit contrôler le cœur, l'intelligence doit contrôler la volonté et Dieu doit pouvoir contrôler l'intelligence, mais il contrôle de façon libre. Vous voyez, on voit très bien dans cette parabole qu'il donne 10 mines à certains, 5 mines à d'autres, une seule mine à d'autres, mais qui laisse chaque personne libre de faire fructifier ou de ne pas faire fructifier l'argent, les talents qui lui ont été donnés. Mais qu'au moment où il va revenir de toute façon à la fin des temps pour régner sur moi, et même avant, il va revenir vers moi le jour de ma mort, puisque le jour de ma mort, il y aura un jugement particulier, je serai jugé par notre Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer le jour de mon jugement particulier ? C'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il va nous appeler parce que nous sommes un serviteur à qui il a donné de l'argent pour savoir comment j'ai fait valoir cet argent qu'il m'a donné, comment j'ai fait valoir cette grâce qu'il m'a donnée. Malheur à celui qui a reçu des grâces du bon Dieu et qui refuse de les faire fructifier. Alors, encore une fois, on voit, je pense que c'est le point clé, où il y a deux points importants dans cet évangile, dans ce passage d'évangile. D'abord, que notre Seigneur Jésus-Christ veut régner sur nous. Et deuxièmement, que chaque âme est différente, donc la quantité de grâce qui est donnée par Dieu à chacun d'entre nous est différente et que nous serons tenus de rendre à Dieu en fonction de la quantité de grâce qu'il nous avait donnée au départ. J'ai déjà souvent expliqué qu'une autre image qui est dans Sainte Thérèse d'Avila, de l'enfant Jésus, pardon, Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, qui compare, je vous l'ai déjà expliqué souvent, qui compare l'âme à un verre, qui est de taille différente. Il y en a qui ont des grands verres, d'un qui est un tout petit verre à liqueur. Donc, imaginez, vous avez un grand verre à bière qui représente votre âme, et bien votre âme doit être pleine. Eh bien, il faut donc que vous ayez fait fructifier ce grand verre et donc le remplir complètement de l'eau de la grâce. Au contraire, celui qui n'a reçu qu'un petit verre, eh bien, tout ce que bon Dieu lui demande, c'est que son petit verre soit plein. Il ne faut pas que celui qui a reçu un grand verre se dise, bon, j'ai autant de grâce que celui qui a reçu un petit verre, donc ça suffit, j'ai mon fond de verre qui est plein, on a le même degré de grâce, mon voisin et moi-même, donc Dieu sera content. Non, parce que Dieu sera content avec celui qui a reçu un petit verre, parce qu'il a beaucoup moins reçu et donc Dieu lui demande beaucoup moins, mais Dieu ne sera pas content avec celui qui a reçu un grand verre, parce qu'il a le droit de demander beaucoup plus, parce que justement, il a reçu un grand verre. Donc ce 10 mines, le mot 10, représente le signe de la perfection, ce qu'il est dit en bas de la page 20. La Sainte Écriture utilise ordinairement le nombre 10 comme le signe de la perfection, car on est arrivé à un but quand on a atteint ce nombre. Celui qui a atteint la divine obéissance a reçu donc les 10 mines. Donc celui qui a accepté les 10 mines et qui les a fait fructifier, c'est celui qui a tout donné à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'évidemment, d'un certain côté, plus on a reçu, plus il est difficile de donner. Celui qui a reçu une seule mine, il n'a pas grand chose à donner parce qu'il a reçu peu, mais celui qui a reçu 10 mines doit donner beaucoup plus. Et en fait, c'est un peu plus difficile pour quelqu'un qui a énormément reçu de tout donner, parce que justement il ne lui reste plus rien, alors que celui qui a reçu peu peut plus facilement se couper de ces choses qu'il a reçues, parce qu'il n'a pas énormément reçu. Donc le bon Dieu nous demandera des comptes en fonction de ce que nous avons reçu. Donc celui qui a reçu les 10 mines et qui rend 10 mines supplémentaires a atteint la divine obéissance. Alors voyons un petit peu maintenant les commentaires des pères de l'Église sur ce passage, page 21. Selon saint Augustin, les 10 mines signifient la loi à cause des 10 commandements. Les 10 serviteurs, ceux qui ont entendu la prédication de la loi et de la grâce. C'est ainsi qu'il faut interpréter les 10 mines qui doivent fructifier. Les serviteurs comprirent la loi quand son voile fut enlevé pour appartenir à l'évangile. Donc celui qui rend 10 mines supplémentaires, c'est celui qui a parfaitement accompli la prédication de la loi de la grâce. Mais les habitants du pays le détestaient. Les citoyens le haïssaient, c'est le verset 14. Et ils envoyèrent après lui une ambassade pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Et c'est pour cette raison que le Christ réprimanda les Juifs. « Vous m'avez haï, moi et mon Père. » Les Juifs rejetèrent son royaume, disant à Pilate, « Nous n'avons d'autre roi que César. » Donc, ceux qui rejettent l'autorité de ce roi, et qui envoient une ambassade pour lui faire dire « Nous ne voulons pas que vous régniez sur nous », représentent les Juifs qui ont refusé le Messie. C'était le peuple élu de l'Ancien Testament qui, hélas, n'a pas voulu accepter le Messie, bien qu'ils avaient vu l'épreuve de cette messianité par surtout l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament et puis par tous les miracles. Et bien, ils veulent pas de lui. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, sur nos têtes et la tête de nos enfants. Nous n'avons d'autre roi que César. Il faut donc choisir notre roi. Est-ce que je vais choisir César comme roi ou est-ce que je vais choisir le monde comme roi? Il faut que je fasse un choix. Alors reprenons un petit peu les commentaires des pères de l'Église. Troisième paragraphe de la page 21, saint Jean Chrysostome explique que la Sainte Écriture parle de deux royaumes. Le royaume de Dieu par création et le royaume de Dieu par justification. Le royaume de Dieu par création, c'est celui qui appartient à Dieu par droit de nature. Il est roi sur tous les hommes. Rappelez-vous ce que dit saint Thomas, il est roi sur tous les hommes par son essence, par sa puissance, par sa présence. Par son essence parce qu'il est cause de tout, par sa puissance parce qu'il peut tout, par sa présence parce qu'il est partout. Par droit de nature, parce qu'il est créateur. Étant notre créateur, Dieu a un pouvoir sur nous et il est créateur de tous les hommes, donc il a un pouvoir sur tous les hommes. Il est roi par présence, puissance et essence sur tous les hommes, y compris sur ceux qui n'ont pas la foi. Deuxième royaume, le royaume par justification. C'est un royaume qui est conquis par droit de conquête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, va payer le prix de notre rédemption. Nous avions tous quitté le paradis terrestre, nous étions fait rouler par le démon, on se précipite tous en enfer, et Dieu va nous racheter par sa mort sur la croix, par son sang répandu pour chacun de nous. Donc ils règnent sur les justes, car par leur volonté propre, ils se soumettent à lui. Car ce royaume que le Christ est venu chercher, c'est ce royaume que celui du Christ est venu chercher et qu'il a reçu. Notre Seigneur Jésus-Christ doit être roi de notre âme par nature, parce qu'il est créateur, et par droit de conquête, parce qu'il est rédempteur. Le problème, c'est que même si notre Seigneur Jésus-Christ a conquis notre royaume, le royaume de notre âme par nature et par droit de conquête, il nous laisse libres de refuser ses grâces. Et c'est pour cela que il va y avoir beaucoup de gens qui vont refuser de faire fructifier les dons qu'ils ont reçus. Voici votre mine que j'ai tenue enveloppée dans un mouchoir, car je vous ai craint, parce que vous êtes un homme sévère, vous enlevez ce que vous n'avez pas déposé, vous moissonnez ce que vous n'avez pas semé. Et on va être condamné. Je vous juge par votre propre bouche, mais sans serviteur, dit notre Seigneur. Vous savez que je suis un homme sévère, enlevant ce que je n'ai pas déposé, moissonnant ce que je n'ai pas semé. Et donc c'est la condamnation. Ôtez-lui la mine, donnez-la à celui qui en a 10. Ça, c'est l'équivalent de la phrase de l'Évangile. Éloignez-vous de moi, maudit, et allez en enfer, créé pour Satan et pour ses anges. Autre commentaire de saint Ambroise. Les 10 cités sont les âmes dont le Christ est le roi, qui a déposé dans les âmes des habitants l'argent du Seigneur et les saintes paroles qui sont purifiées comme l'argent purifié par le feu. Donc, celui qui a reçu 10 mines et qui en rend 10 sont les âmes qui reconnaissent que le Christ est leur roi. Et pas simplement en paroles de bouche, qui reconnaissent dans la pratique que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment le roi de leur âme, donc de leur intelligence, de leur volonté, de leur mémoire, de leur cœur, des passions. Le bon Dieu est notre roi, mais il ne veut pas nous obliger à le reconnaître comme roi. Pour cela que on voit très bien dans cet évangile, cette partie de l'évangile, le chapitre 19 de Saint-Luc, on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas obliger celui qui a reçu 10 mines à servir. Il donne les grâces, mais il faut que ces grâces travaillent avec la volonté propre de chaque personne. Donc celui qui a reçu 10 mines, il faut qu'il utilise sa volonté propre pour retravailler et rendre faire fructifier ses 10 mines et en obtenir 10 mines de plus. Celui qui a reçu 5 mines doit utiliser sa volonté propre pour faire fructifier ses 5 mines et obtenir 5 mines supplémentaires. Et celui qui n'avait reçu qu'une seule mine devrait pouvoir utiliser sa mine. Même si humainement parlant il en a reçu peu, moins que les autres, il aurait dû utiliser sa volonté propre pour faire fructifier cette mine. Et s'il avait rapporté une mine supplémentaire, Dieu aurait été parfaitement content. Mais il n'a pas voulu le faire. Et donc il est condamné. Donc ces 10 cités sont les âmes dont le Christ est le roi. Autre texte de saint Bède le Vénérable. Les serviteurs sont l'assemblée de ceux qui sont envoyés pour prêcher l'évangile aux incirconcis, c'est les gentils, dont la mine, qui est la foi d'évangile, en a gagné 5 autres, convertis à la grâce de la foi évangélique, elle qui auparavant était esclave des 5 sens du corps. Donc on se libère de l'esclavage. Donc les 5 mines qui sont données, si on les représente, 5 combats, en quelque sorte, combats contre, pour que nous puissions utiliser chacun de nos sens afin de découvrir le vrai. N'oublions pas que c'est par nos sens qu'on atteint la vérité. On comprend les choses par abstraction. Nous avons un système abstractif de connaissance des choses. Donc je vais utiliser chacun de mes 5 sens pour voir, pour toucher, pour goûter, pour sentir, etc. Et cette utilisation des sens va introduire dans mon âme une image de ce qui se passe à l'extérieur. Je suis dans la vérité dans la mesure où l'image qui est à l'intérieur de mon âme est identique à la vérité, à la réalité des choses qui existent à l'extérieur. Soyez établis donc sur 5 villes. Soyez donc exaltés pour briller par la foi la conversion de ceux que vous avez illuminés. Donc je me convertis et je ne cherche qu'une seule chose, c'est que les autres autour de moi puissent être illuminés par les fruits de ma conversion personnelle. Alors saint Ambroise explique que celui qui a gagné les 5 mines a toutes les vertus morales, car il a 5 sens corporels. Et celui qui en a gagné 10 en a beaucoup plus, c'est-à-dire qu'il a tous les mystères de la loi et les vertus morales. Donc les 10 mines signifient également les 10 commandements, l'enseignement de la loi, alors que le 5 mines symbolise l'ordre et la discipline. Rappelez-vous que le chiffre 10 représente la perfection, représente donc la totalité de la perfection. Ça représente donc l'ordre et la discipline par laquelle je me soumets complètement, de façon totale, à notre Seigneur Jésus-Christ. Le scribe, disent les pères, doit être parfait en toutes choses. Le Christ parle des Juifs et constate que seuls deux serviteurs ont multiplié leur avoir, non par intérêt financier, mais par une gestion profitable des évangiles. Car un type d'usure est basé sur l'argent prêté avec intérêt, un autre sur l'enseignement du ciel. L'usure est une bonne chose quand on le met au service de Dieu. Mais l'usure placée au service des hommes devient quelque chose d'épouvantable. Dieu, l'Église catholique, a toujours condamné l'usure. Le problème, c'est que l'usure, prise d'intérêt pour l'argent, c'est tout le travail des banques actuelles, prendre des intérêts constamment, parce que il n'y a que les intérêts qui sont remboursés, le principal ne bouge pas, ce qui fait que ça devient un vol éhonté. Le système des prises d'intérêt qui ne touchent pas au principal est un système de vol, pur et simple. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, justement, va condamner cette usure. Par contre, si au contraire, j'utilise les choses spirituelles pour augmenter, je peux gagner des intérêts sur le plan spirituel, et à ce moment-là, je suis dans le vrai, je suis dans le bien. Si je ne cherche qu'à augmenter l'usure, les intérêts pour des choses purement matérielles, j'utilise mon intelligence pour les choses mauvaises. Si au contraire, j'utilise ma volonté illuminée par la foi, par la grâce du bon Dieu, pour gagner des intérêts spirituellement, alors à ce moment-là, oui, parce que j'aurai encore une plus belle place au ciel, et les 10 000 que j'avais, je vais les garder et je vais en recevoir 10 autres. Donc ces 10 000 représentent l'ordre de la discipline, l'amour du bon Dieu. Les serviteurs qui apportent ce qu'ils ont reçu avec une augmentation sensible représentent donc ceux qui croient au Christ et qui ont bien utilisé ce qu'ils ont reçu pour augmenter les richesses du Seigneur. Celui au contraire qui a refusé de travailler ainsi pour le Seigneur est représenté par le Seigneur, le serviteur qui a caché son avoir dans un linge sans le faire fructifier. C'est pour cela que notre Seigneur explique que celui qui refuse d'utiliser les grâces du bon Dieu pour les faire fructifier représente les Juifs qui refusent le Messie. Les Juifs qui refusent le Messie, qui refusent de reconnaître, d'élever les yeux vers celui qui est crucifié pour chacun d'entre eux, pour tout le monde. Donc posons-nous la question, est-ce que je fais fructifier les dons que j'ai reçus de Dieu? Même si je n'ai reçu qu'une seule mine, que je n'ai reçu qu'un seul talent, est-ce que je les fais fructifier? Malheur à celui qui a des talents et qui refuse de les faire fructifier. C'est quelque chose de grave. Donc, posons-nous cette question, dans quelle mesure est-ce que j'ai fait fructifier les différents talents que le bon Dieu m'avait donnés? On a tous des qualités morales, des qualités humaines. Est-ce que je fais fructifier ces qualités en fonction des tempéraments que j'ai reçus? Si j'ai un tempérament colérique ou sanguin ou mélancolique ou flegmatique, j'ai des choses à faire fructifier en fonction de ce tempérament. Parce qu'avec certains tempéraments, le bon Dieu va donner des grâces naturelles et des grâces surnaturelles. Par exemple, celui qui a un tempérament colérique est quelqu'un qui est en général un bon chef, naturellement parlant. Mais il doit lutter contre les conséquences mauvaises de son tempérament. Il est peut-être un bon chef, mais il a tendance à être trop dur, trop exigeant parfois avec ses inférieurs. Et donc il faut qu'il fasse attention de ne pas tomber dans l'orgueil. Donc quelqu'un qui a un tempérament de colérique, qui utilise son tempérament pour monter vers le bon Dieu, va avoir une gloire extraordinaire au paradis. Celui au contraire qui a un tempérament, par exemple, de sanguin, il a des grosses qualités. Sanguin du cœur, par exemple, il a beaucoup de cœur. C'est un homme qui est toujours joyeux, une personne qui est toujours joyeuse, qui est toujours facilement charitable, ça c'est le bon côté. Mais le tempérament sanguin a une tendance à la superficialité, et donc une tendance au mensonge, avec toutes les conséquences du mensonge, entre autres le vol. Et donc je dois utiliser les talents que le bon Dieu m'a donné par mon tempérament sanguin pour me mettre à son service. Si au contraire j'ai reçu un tempérament de mélancolique, bon, je suis quelqu'un qui pense, qui prend son temps pour penser. Les mélancoliques sont des gens qui prient facilement, sont des gens qui réfléchissent aux choses sérieuses de la vie, mais qui ont une tendance à la bouderie, par exemple. Et donc, je dois travailler sur cette bouderie pour utiliser mieux le talent que le bon Dieu m'a donné. Si au contraire, je suis un flegmatique, bon, j'ai ma grande qualité, ce sera la patience, mais j'ai aussi la paresse. Il faut que je travaille. J'utilise la patience pour lutter contre ma paresse. Donc, les serviteurs qui apportent ce qu'ils ont reçu et qui est une augmentation sensible, c'est bien, représentent ceux qui croient au Christ et qui ont bien utilisé ce qu'ils ont reçu pour augmenter les richesses du Seigneur. Celui qui a refusé de travailler ainsi pour le Seigneur est représenté par le serviteur qui a caché son avoir dans un linge sans le faire fructifier. Qu'en est-il des dons de Dieu en moi? Est-ce que j'ai fait fructifier ces dons? Donc, la parole de Dieu, la prédication de l'Évangile sont symbolisées par les mines ou les monnaies d'argent. La parole du Seigneur doit être confiée à la banque, c'est-à-dire placée dans un cœur prêt à la recevoir. Donc c'est à moi de faire fructifier les dons du bon Dieu. Le bon Dieu me donne gratuitement ses dons, mais il va me demander aussi d'utiliser ses dons et de les faire fructifier de façon gratuite. Alors selon saint Augustin, la banque qui fait fructifier les dons de Dieu, cette banque qui reçoit l'argent représente la profession religieuse, qui est un moyen sûr de salut. Donc celui qui fait fructifier, c'est celui qui rend beaucoup plus qu'il n'a reçu. Et c'est le cas de celui qui a une vocation religieuse, qui est appelé par le bon Dieu, à le suivre d'une façon toute particulière, toute spéciale. Mystiquement parlant, texte de saint Bède le Vénérable, lorsque les Juifs entreront, alors tout Israël sera sauvé. Et la grâce abondante de l'Esprit sera versée sur les maîtres, car le Père envoie son armée à la vigne, et le Fils est la cause que ses ennemis sont tués devant lui. Donc, à la mesure où j'utilise les talents qui m'ont été donnés, je rends notre Seigneur Jésus-Christ heureux, il me donnera une bonne place au paradis. Mais si je refuse, comme malheureusement la plupart des Juifs ont refusé, je refuse le Messie, je refuse de reconnaître que le Messie va mourir pour moi, sur la croix le vendredi saint, eh bien je serai condamné pour cela. L'homme de haute naissance, donc dont parle l'évangile, c'est le verset 12. Un homme de haute naissance en alla dans un pays lointain pour prendre possession d'un royaume et revenir ensuite. Cet homme de haute naissance ici, qui part dans un pays lointain, c'est Dieu le Fils qui quitte d'une certaine façon, allégoriquement parlant, bien sûr, qui quitte la Sainte Trinité, qui quitte le ciel pour aller prendre possession du royaume, c'est-à-dire des hommes créés pour la gloire de Dieu. Donc cet homme de haute naissance, c'est le Christ dans sa nature humaine. Saint Basile nous dit que le Christ n'est pas seulement noble dans sa divinité, mais aussi dans sa nature humaine. Car il est de la race de David, selon ce que Daniel vit et entendit, lui donna pouvoir et honneur et un royaume. Donc cet homme, encore une fois, de haute naissance, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est de haute naissance. Il est né parce qu'il est homme. Il va devenir homme en prenant notre nature humaine dans le sein très pur de notre Sainte Vierge Marie le 25 mars. Mais il est de haute naissance parce qu'il a une humanité unie à sa divinité, à la divinité de la Sainte Trinité. Bien que le royaume ait été dû au Christ depuis le début, à cause de son union hypostatique avec le Verbe, c'est-à-dire l'union de l'incarnation, c'est ça l'union hypostatique, l'humanité et la divinité unies dans la même personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Donc bien que le royaume ait été dû au Christ depuis le début à cause de son union hypostatique avec le Verbe, il le mérita aussi par les mérites de sa passion et sa mort sur la croix. J'ai expliqué que notre Seigneur Jésus-Christ est doublement roi, il est roi parce qu'il est créateur en tant que Dieu, et il est roi aussi parce qu'il est rédempteur, en tant qu'il meurt dans son humanité pour nous sur la croix. Donc il n'en prit pas la possession avant sa résurrection, et alla donc dans un pays lointain d'où il y rejoignit le ciel. Il est dit que cet homme de haute naissance en alla dans un pays lointain pour prendre possession d'un royaume et revenir ensuite. Et ensuite ramener ce royaume au ciel. Notre Seigneur Jésus-Christ se fait homme, meurt sur la croix, pour tous les hommes, afin d'amener tous les hommes au ciel et revenir dans la gloire de son Père. Donc, notre Seigneur ne va pas prendre possession de son royaume au ciel avant sa résurrection, directement avant son ascension, même 40 jours après Pâques. Il alla donc dans un pays lointain d'où il rejoignit le ciel et entra dans son royaume le 40e jour après sa mort et sa résurrection, c'est l'ascension, pour y être roi de l'univers et régir le ciel et la terre. Donc le Christ, disent les pères, en bas de la page 21. Le Christ reviendra du ciel sur la terre le jour du jugement, pour montrer son royaume de façon visible à tous les hommes, pour rendre le jugement final, tant sur les élus que sur les réprouvés, ainsi que sur les croyants, les incroyants et les désobéissants. Pour conduire ses élus dans son royaume céleste et les rendre participants à sa gloire, comme les anges l'ont déclaré aux apôtres à son ascension. Le Christ reviendra pour unir le royaume de la terre avec le royaume du ciel, se montrer lui-même comme le Seigneur de la terre et du ciel, et conduire tous ses fidèles de la terre dans son royaume céleste. Donc c'est un passage important. Notre Seigneur Jésus-Christ va revenir à la fin des temps, il va revenir en fait deux fois. D'abord il va revenir pour me juger, un jugement privé, un jugement particulier, à l'endroit même de ma mort, mais il va revenir à la fin des temps pour juger de façon visible tous les hommes. Et là, ça sera l'affirmation publique du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Actuellement, notre Seigneur Jésus-Christ veut être reconnu comme roi, mais il ne nous oblige pas à le reconnaître comme roi. Par contre, au jour de notre jugement particulier et au jour du jugement général, nous n'aurons plus le choix. Et là, nous serons bien obligés de reconnaître la toute-puissance de Dieu sur moi, parce que je serai obligé, j'aurai plus le choix, j'aurai plus la possibilité de refuser ce royaume, de refuser la royauté de notre Seigneur sur mon âme. Le jour où je meurs, mon âme est jugée par Dieu, et d'un seul coup, c'est l'illumination, je vais comprendre que Dieu avait complètement droit sur moi, parce que justement, il est Dieu. Et le jour du jugement général, tout le monde verra, à ce moment-là, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ était nécessaire, et Dieu va diviser la population des hommes en deux parties, les bons et les mauvais. Aux bons, il va dire, venez, les bénis de mon Père, possédez le paradis, le royaume préparé pour ses anges, pour les anges de Dieu, et pour tous les hommes qui meurent un tas de grâces, mais il va rejeter tous ceux qui ont refusé notre Seigneur, à savoir, il va leur dire, éloignez-vous de moi, maudit, allez au feu éternel préparé pour Satan et ses anges. Finissons ces deux derniers paragraphes, la page 22. Ceci fut accompli après la mort, résurrection, ascension de Jésus-Christ au ciel. Quand les Juifs envoyèrent... Les scribes et les Juifs qui détestaient Jésus parce qu'ils le reprenaient sur la vie, lui envoyèrent un ambassadeur pour lui dire, nous ne voulons pas de cet homme, Jésus était pauvre, d'humble condition et fils de charpentier, pour régner sur nous. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ laisse les gens libres de le rejeter ici-bas, jusqu'au jugement. Après, on n'a plus de liberté. Ceci fut accompli après la mort, résurrection et ascension de Jésus-Christ au ciel, quand les Juifs envoyèrent Saul à Damas pour prendre tous ceux qui croyaient au Christ afin de déraciner sa foi, son nom et son royaume. Les Juifs firent de même en emprisonnant Saint-Pierre et les apôtres, en les flagellant, en lapidant Saint-Étienne, en tuant Saint-Jacques, en persécutant tous les chrétiens à l'époque et encore maintenant. Mais il y a eu des conversions. Saul est devenu Saint-Paul, il s'est converti. Saint-Pierre a renié notre Seigneur Jésus-Christ trois fois, mais s'est converti. C'est la même chose pour nous. Donc le démon va essayer de déraciner ma foi, déraciner le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le royaume de Dieu dans mon âme. Mais avec la grâce du bon Dieu, je suis capable, avec sa grâce, de remettre notre Seigneur Jésus-Christ comme roi total de mon âme. Voilà, je vais arrêter là, ça fait déjà une heure que je vous parle. Donc nous en sommes à la page 22. La prochaine fois, je pense, Dieu aidant, je vais terminer ce chapitre 19 de Saint-Luc. Terminons par une prière.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il, nos saints anges gardiens. Veillez sur nous, Saint Pilice, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, Saint Jérôme, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.